Oh Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, nous sommes des privilégiés. Ce matin, Seigneur, par ton esprit, nous venons de réaliser une fois de plus combien, Seigneur, nous avons une grâce particulière, celle de t'avoir dans nos vies. Toi, l'incomparable, dans tout ce que tu es, incomparable, Seigneur, dans tout ce que tu fais. Un jour, tu es venu habiter nos cœurs, et ce matin, tu es parmi nous. Et nous voulons vivre, justement, Seigneur, cette vérité selon laquelle tu es incomparable. Seigneur, que ce matin, tu interviennes en faveur de tous ceux qui sont là, mais également en faveur de tous ceux qui nous suivent à travers les différents médias. Ce matin, nous voulons manger, Seigneur, ce pain de vie, ce pain qui vient de toi, le seul qui puisse combler, Seigneur, notre soif, notre faim. Ce matin, nous voulons manger ta parole, Seigneur, avec, oh Dieu, avec appétit, car seule ta parole peut nous combler au-delà de toute attente. Ce matin, nous te prions, oh Dieu, de nous parler par ton Saint-Esprit. Ô Esprit de vérité, ce matin, fais-nous monter à la montagne pour rencontrer l'incomparable, afin qu'alors que nous serons devant lui, que nous puissions manger de sa parole, que cette parole puisse nous pénétrer de partout, que cette parole envahisse tout notre être, que cette parole nous remplisse de sa gloire. Merci Seigneur pour l'amour que tu as pour chacun de nous, car dans cet amour profond, dans cet amour inconditionnel et incommensurable, tu permets ce matin que nous puissions nous asseoir très humblement devant ta face, Seigneur, pour boire ta parole. Ô Dieu, pour la manger, donne-nous la soif de ta parole, que nous puissions saisir tout ce qui va sortir de ta bouche, afin que cela finisse par faire le délice de notre âme. Bénis ton serviteur, bénis ton peuple. Seigneur, nous voulons, au terme de ce culte, partir avec de cœurs rassasiés. Rassasié, Seigneur, de ta présence, rassasié de ta parole, rassasié, ô Dieu, de la plénitude de ton esprit en nous, parmi nous et autour de nous. Merci, Maître. Bénis ta parole. Sanctifie-la dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu incomparable, alléluia. Incomparable dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de Dieu qui lui soit semblable. Il n'y a pas de Dieu qui puisse être comparé à celui qui est présent au milieu de nous. À celui qui nous a tant aimés, qui nous aime encore et qui nous aimera. Qui nous aimera tant que nous lui resterons fidèles. Et jusqu'au terme de notre voyage ici-bas, son amour sera toujours à notre portée. C'est pourquoi, quel que soit le péché que vous avez commis, eh bien, il y a toujours possibilité, au nom de cet amour, de revenir au Seigneur, de solliciter son pardon et de le recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il nous aime. Ne repartez pas avec votre sentiment de culpabilité. Ne repartez pas avec cette peur paralysante qui est là parce que votre conscience vous reproche. Qui est là parce que vous savez que vous ne marchez pas droit devant lui, mais au contraire de poser cette peur à ses pieds. Faites appel au pardon que le Seigneur nous a acquis à la croix de Golgotha et croyez-moi, il vous donnera, il vous accordera ce pardon et vous repartirez avec un cœur déchargé, avec une conscience complètement libérée de tout fardeau quel qu'il soit. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais revenir sur quelques pensées sur lesquelles j'ai eu à m'attarder un temps soit peu en semaine, quelques pensées que je partageais ici, mais sur lesquelles j'aimerais revenir, m'attarder un tout petit peu pour essayer de voir ce que le Seigneur a encore à nous enseigner par rapport à toutes ces pensées. Nous allons donc parler aujourd'hui du désir de Dieu, qui consiste donc non seulement à habiter en nous, mais aussi à marcher parmi nous et au milieu de nous. Donc notre thème, c'est « Le Seigneur désire marcher au milieu de nous ». Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pour cela, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, qui est donc la fin du chapitre, et puis ensuite nous lirons juste le premier verset du chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 6, nous lisons. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous donc de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté, dans la crainte de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu désire marcher au milieu de nous et parmi nous. Dieu désire marcher avec chacun de nous. Je voudrais attirer l'attention de chacun de nous sur ces deux versets, plutôt ces deux verbes, qui résument en eux le désir qu'a toujours eu Dieu depuis qu'il a créé l'homme et qu'il a placé sur cette terre, cet homme qui reste singulier dans sa composition, car il est corps, il est âme, il est esprit. Depuis sa création, à la ressemblance et à l'image de son Créateur, eh bien Dieu a toujours eu à cœur, a toujours désiré, mes amis, conjuguer ces deux verbes, habiter dans l'homme et marcher avec l'homme. Amen. Gloire au Seigneur. Habiter dans l'homme et puis ensuite marcher avec l'homme. Habiter dans l'homme, habiter parmi nous et puis ensuite agir au milieu de nous. Nous le savons, mes amis, la parole de Dieu déclare que depuis le jour où nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, nous sommes devenus le temple du Dieu vivant. Ce Dieu-là habite désormais dans nos corps. Nos corps sont devenus l'habitation du Créateur en esprit. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur ce premier verbe, puisque nous avons déjà eu, même pendant nos derniers comme en séminaire, à mettre beaucoup d'accent sur le fait que Dieu veut habiter dans l'homme, faire de l'homme véritablement son temple. Mais je voudrais ce matin que nous puissions plus nous tourner vers le verbe « marcher ». Nous trouvons donc dans ce passage que nous venons de lire, l'une des grandes promesses que le Seigneur fait à son peuple. Quelle est cette promesse? C'est donc celle d'habiter et de marcher au milieu de son peuple. Celle de devenir son Dieu, et puis ses enfants devenir véritablement son peuple. Dieu a promis d'habiter dans l'homme. Il désire rencontrer tout homme. Et je vous dirais que si Jésus est venu sur cette terre, c'est pour donner la possibilité à l'homme de pouvoir amorcer une démarche vis-à-vis de son Créateur, pour que le Créateur, en réponse à cette démarche, puisse donc venir rencontrer l'homme, non pas pour un petit moment et puis s'en aller, mais plutôt rencontrer l'homme, entrer en relation avec lui, venir dans sa vie et faire faire de l'homme son habitation. Car comme Paul, et nous le verrons un peu plus loin, Paul l'a dit ce jour-là à l'aéropage à Athènes, alors qu'il proclamait la parole de Dieu, il a montré à tous ces philosophes épicuriens, stoïciens et d'autres y étaient rassemblés, tous ces Athéniens, il leur a dit combien Dieu n'habitait pas dans les temples, dans les maisons faites par la main de l'homme. C'est une vérité importante, car nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps où toutes les religions essayent de gagner un maximum de gens à elles. Les gens se battent, les gens sont à la recherche de la véritable religion, de la religion qui soit au-dessus de toutes les autres religions. Mais l'homme n'a pas besoin de religion, l'homme a besoin d'une rencontre personnelle avec son Créateur. Et lorsqu'il se tourne vers son Créateur, dans le nom de Jésus, eh bien, celui-ci le reçoit, non pas simplement pour un temps, mais il le reçoit pour venir habiter en lui. Le Seigneur ne vient pas pour une petite visite. En d'autres mots, il a promis d'habiter. Donc c'est une habitation qu'il aimerait faire en nous et non pas une visitation. Il recherche l'habitation et non pas la visitation. Et notre devoir devrait donc être celui-ci, mes amis, tout faire pour qu'à chaque fois que nous nous réunissons parmi nous, Dieu ne vienne pas pour une petite visite d'un quart d'heure et puis s'en aller, mais qu'à chaque fois que nous sommes là, que ce Dieu-là habite véritablement au milieu de nous. Qu'il demeure parmi nous. Car lorsqu'il est avec nous, alors tout devient possible. Ce qui nous paraissait impossible, ce qui nous paraissait insoluble, lorsque lui est là, eh bien tout cela finit par trouver des solutions. Alléluia. Donc Dieu ne vient pas pour un bref séjour. Il ne vient pas pour un petit moment et puis s'en aller, parler avec l'homme et puis partir. Pas du tout, mes amis. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il marche comme un électron libre. En mettant l'homme dans le jardin d'Éden, il ne l'a pas abandonné. Voyez-vous, mes amis, il s'est engagé lui-même à l'accompagner. Mais il a donné à l'homme la possibilité de choisir. Car il voulait que l'homme l'aime par un choix rationnel. Que l'homme choisisse de l'aimer Dieu et non pas se trouver dans un contexte où il n'aurait eu d'autre choix que d'aimer Dieu. Le vrai amour est un amour rationnel, le produit d'un choix réfléchi et rationnel. Alléluia. Voyez. Dieu voulait que l'homme l'aime parce qu'il a choisi de l'aimer. Non pas simplement parce que l'homme n'aurait pas eu d'autre choix que d'aimer Dieu. Il dit, mais de toute façon, je n'ai pas de choix, il n'y a que lui. Voyez-vous, c'est ainsi qu'il lui a dit, tu feras ceci, tu feras cela, mais attention, tu ne feras pas cela. C'était donc à l'homme de choisir. Donc, pour revenir à ce que je disais, ça a toujours été le désir de Dieu d'habiter dans l'homme. Ça a toujours été son désir d'habiter parmi son peuple. Non pas pour un temps, non pas une petite visite, un court ou bref séjour parmi son peuple, pas du tout. Mais il aimerait habiter. Gloire à Dieu. Il nous arrive tous de rendre visite à des amis, de rendre visite à des collègues, de rendre visite à la famille. Et quand nous sommes en visite quelque part, nous apprécions la compagnie des gens à qui nous rendons visite. Nous passons un temps avec eux. Et au terme de notre visite, qu'est-ce que nous faisons? Ben, nous partons. Nous retournons chez nous, là où nous habitons. Nous regagnons nos pénates, comme on dit. Nous retrouvons notre habitation, notre demeure. Voyez-vous? Mais avec Dieu, il n'en est pas ainsi, mes amis. Avec notre Seigneur, il n'en est pas ainsi. Il a promis non seulement d'habiter en nous, mais d'agir parmi nous et au milieu de nous. Et ma prière, c'est qu'à chaque fois que nous nous rassemblons, eh bien que nous puissions voir Dieu agir parmi nous. Voir Dieu agir au milieu de nous. Quelle déclaration merveilleuse! Le Seigneur qui a créé l'univers, le Seigneur Tout-Puissant, ce Dieu-là, mes amis, eh bien, exprime son désir de venir habiter dans l'homme, exprime son désir de marcher avec l'homme. Et en accord avec cette promesse, le même apôtre Paul écrivant aux Éphésiens leur dira ceci, nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Celui qui vient habiter en nous est aussi celui qui aimerait marcher avec nous. J'habiterai au milieu d'eux, j'habiterai en eux. Le premier désir de Dieu en ce qui concerne tout homme, c'est celui d'habiter en lui. Il y a, mes amis, un vide dans nos cœurs. Il y a un vide dans l'existence de tout homme qui ne pourrait être et qui ne peut être comblé que par le Seigneur lui-même. Dieu, comme je venais de le souligner, n'a pas créé l'homme pour qu'il vive indépendamment de la volonté de son Créateur, pour qu'il soit une sorte d'électron libre sur cette terre. Il a créé pour lui et pour lui seul. Mais malheureusement, le péché est passé par là, la relation a été rompue, et désormais l'homme, né dans le péché, donc coupé de Dieu, vivant loin de Dieu, mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il a tout fait pour aller le chercher là, dans sa perdition, là, dans son trou noir. Et quand il vient, ce n'est pas pour un petit moment, mais il vient pour habiter. Gloire au Seigneur. Lorsque Paul est arrivé à Athènes, dans son voyage missionnaire, selon que l'Esprit le lui avait demandé, conduit par le Seigneur, eh bien, il a rencontré pas mal de gens, là, dans cette ville d'Athènes, et il leur a parlé du Seigneur, il leur a apporté la bonne nouvelle. Et comme beaucoup d'Athéniens passaient leur temps à philosopher, eh bien, son message, qui n'avait rien à voir avec tout ce que les différentes écoles philosophiques enseignaient, a attiré pas mal de gens. Au point où finalement, tous ces gens, ces philosophes, notamment les épicuriens, les stoïciens, comme nous dit Acte 17, l'ont amené parce qu'ils ont trouvé qu'ils disaient des choses certes bizarroïdes, mais quand même intéressantes. Ils l'ont amené à l'aéropage de cette colline d'Athènes, qui était une colline consacrée au dieu Arès. Et c'est là aussi que siégeait le tribunal. Ils l'ont amené là-bas pour l'écouter davantage. Et là, l'homme de Dieu a commencé à parler. C'est là qu'il va leur dire qu'il trouvait les Athéniens extrêmement religieux. Il a vu à Athènes toutes sortes d'hôtels dédiés à différentes divinités, toutes sortes de temples. Il y avait de tout. Et il leur dira ceci, et c'est une vérité extraordinaire et importante, que chacun de nous se doit d'entendre. Paul leur dit ceci, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, le Seigneur de tout l'univers, ce Dieu-là n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Cela est important, mes amis. Dieu n'habite pas un temple. Dieu n'habite pas une mosquée. Dieu n'habite pas une synagogue. Dieu n'habite pas une cathédrale. Tous ces bâtiments peuvent être appelés maison de Dieu, mais il n'en demeure pas moins que le Dieu des cieux n'habite pas dans un lieu construit par la main de l'homme. Ce Dieu-là, mes amis, voudrait habiter eh bien, un lieu que lui a fait, que lui a créé. Et ce lieu-là, eh bien, c'est le corps de l'homme. C'est l'âme de l'homme. C'est l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là est dynamique. Il n'est pas statique. On ne peut pas le figer dans l'espace et dans le temps. C'est ainsi qu'il interdit absolument l'idolâtrie sous toutes ses formes. Il interdit toute représentation par rapport à lui en disant, ça c'est Dieu. Il est. Comment voulez-vous représenter quelqu'un qui y est? Hier, il est. Aujourd'hui, il est. Demain, gloire au Seigneur. Ce Dieu-là n'habite pas, mes amis, toutes ces maisons, tous ces lieux à l'architecture un peu spéciale. Même ici, avant ça, ben, il y a d'autres personnes qui ont habité ici. C'était un hôtel, hein? Bar, restaurant, hôtel, tout ce que vous voulez. Mais puis un jour, tout a changé. Au lieu de venir ici pour satisfaire le désir de la chair, Ce lieu est devenu un lieu où la parole de Dieu est proclamée. Un lieu où Dieu vient pour rencontrer les gens. Ce lieu est consacré parce que c'est un lieu où nous prêchons la parole de Dieu. Ce n'est pas un lieu pour tenir de meetings politiques. Ce n'est pas un lieu, mes amis, pour se livrer je ne sais à quel exercice oratoire. Ce lieu est sacré parce qu'il est réservé à Dieu et à Dieu seul. Mais ce lieu est construit avec les mêmes matériaux que nous trouvons sur le marché, oui ou non? Regardez toute cette toiture métallique, on en trouve, hein? Le mur, ben, on en trouve partout. Le matériau, ces matériaux, on le trouve partout. Donc ce Dieu-là n'habite pas ce qu'on appelle la maison de Dieu, ce qu'on appelle les lieux de pèlerinage. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour aller je ne sais où, à la recherche, à la quête de ce Dieu-là. Dieu est partout, mais il ne se rencontre pas partout. Alléluia. Il se rencontre en Jésus et en Jésus seul. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour donner l'occasion à l'homme de pouvoir reconnaître son péché, de pouvoir reconnaître sa culpabilité, et puis ensuite aller vers Dieu pour demander pardon, et puis ensuite demander à ce Dieu-là de venir habiter dans sa vie. Lorsque Dieu vient en nous, alors nous commençons à vivre véritablement. Tant que Dieu n'est pas dans la vie d'un homme, cet homme-là aura beau être l'homme le plus instruit, l'homme qui a la connaissance infuse, que sais-je, cet homme aura occupé la position la plus élevée au monde, cet homme, aux yeux de Dieu, n'est que cadavre, n'est qu'ossement. Nous commençons à réaliser notre raison d'être ici-bas lorsque Dieu vient habiter nos cœurs. Là, il vient, mes amis, et il s'installe et il habite en nous. Et là, nous commençons une nouvelle vie. J'habiterai. Il a exprimé. C'est un verbe important. Si nous prêchons le message de l'Évangile, c'est pour que les gens comprennent que Dieu voudrait habiter dans leur cœur. Aujourd'hui, les gens courent après telle ou telle autre religion, après tel ou tel autre lieu. Mais nous devrions courir après celui qui désire habiter en nous. Non seulement ce Dieu-là habite en nous par son esprit, non seulement ce Dieu-là a fait de nos corps le temple de son Saint-Esprit, mais ce Dieu-là, comme nous venons de le lire, désire marcher parmi nous. Il désire marcher au milieu de nous. Il désire marcher avec nous. Il veut bouger au milieu de nous. Il veut, mes amis, que nous puissions réaliser combien il est dynamique. Il veut être actif parmi nous, au milieu de nous et pour nous. Il n'est pas statique. Le même Paul, sur cet aréopage, a dit que c'est dans ce Dieu-là que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. Ce que nous avons, mes amis, le mouvement qui nous anime, la vie que nous avons, le souffle de vie que nous avons, tout cela nous vient de Dieu. C'est pourquoi nous devrions tout faire pour que ce Dieu-là vienne habiter en nous. Non seulement habiter en nous, marcher. Dieu veut marcher. Et le devoir que nous avons en tant que membres du corps du Christ, en tant que membres de la borne, le devoir que nous avons en tant qu'habitation de Dieu, c'est de tout faire, mes amis, de créer des conditions en nous et parmi nous qui permettent Dieu de marcher au milieu de nous, de marcher avec nous. Gloire au Seigneur. Nous devrions créer un climat favorable et une atmosphère saine, digne de lui, qui puisse l'amener à marcher au milieu de nous, qui puisse l'amener à marcher parmi nous, à marcher avec nous, qui puisse amener Dieu à agir, mes amis. Il n'agit pas au hasard. Il faut que certaines conditions soient remplies pour que Dieu se mette à agir, pour que Dieu se mette à marcher parmi nous. C'est comme dans un couple. Un climat d'harmonie, un climat d'amour vrai, conjugal, eh bien, n'arrive pas au hasard, oui ou non. Il faut créer des conditions qui
qui permettent à l'homme et à la femme de vivre pleinement l'amour conjugal. Un climat de paix dans une famille n'arrive pas au hasard. Il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des actes qu'on doit poser pour qu'enfin la paix, la sérénité puisse régner dans une famille. De même, mes amis, Dieu ne peut pas agir pleinement au milieu de nous. Dieu ne peut pas marcher parmi nous si nous ne remplissons pas certaines conditions. Si nous ne créons pas des conditions favorables qui lui permettent, lui, le Saint, de pouvoir agir parmi nous, nous, ses enfants, qu'il a ramassés quelque part, agir dans nos vies, nous l'avons déjà vu, agir parmi nous, agir au milieu de nous, agir dans nos familles. Et quand le Seigneur se met à marcher au milieu de nous, alors là, les choses commencent à changer. Alléluia. Quand le Seigneur commence à bouger au milieu de nous, alors certains égos surdimensionnés commencent à partir. Quand Dieu se met à marcher dans nos vies, quand il se met à marcher au milieu de nous, mes amis, tout ce qui est de la chair va commencer à s'éloigner de nous. Quand Dieu bouge, eh bien, c'est tout le ciel qui bouge. Et lorsque le ciel bouge, la terre n'a pas de choix que de subir l'onde de choc venant du ciel. Gloire au Seigneur. Quand Dieu marche, quand Dieu bouge, alors les maladies peuvent quitter les corps et s'en aller. Quand Dieu bouge, quand Dieu marche au milieu de nous, quand Dieu agit, mes amis, les écailles tombent des yeux et les gens réalisent qui il est. Et en même temps, ils réalisent qui ils sont. Quand Dieu bouge, mes amis, tous ceux qui souffrent de telle ou telle autre addiction à la drogue, telle ou telle autre assuétude au tabac, tout cela expérimente la délivrance et la libération. Il est impossible d'être là où Dieu bouge et de continuer à être un véritable disciple de Bacchus, c'est-à-dire un ivrogne. Voyez-vous, nous voulons que Dieu bouge dans notre ville de Kinshasa. Et croyez-moi, quand il se mettra à bouger véritablement, il y a beaucoup d'Nganda, beaucoup de bars qui feront faillite pour sa gloire. Quand il va commencer à bouger véritablement, aller de rue en rue, d'avenue en avenue, de quartier en quartier, de commune en commune, croyez-moi, toutes ces filles qui sont manipulées par la chair et qui sont là le long des avenues pour racoler les hommes, comprendront qu'elles sont en train de jouer avec le feu et réaliseront l'amour de Dieu et abandonneront ce métier le plus vieux du monde pour se jeter dans le bras de leur sauveur. Amen. Si Dieu se met à bouger, eh bien tout bouge, mes amis. Et là où Dieu bouge, là on voit qu'il y a l'action de Dieu. Mais il ne bouge pas comme ça au hasard. Voyez-vous? Il faut que nous créions les conditions. Et chacun de nous a la responsabilité de tout faire pour être un élément qui va contribuer, mes amis, à l'installation de cette bonne atmosphère, de ce climat favorable qui permettra à Dieu d'agir. Donc, si Dieu n'agit pas, ne regardez pas d'abord au pasteur, regardez à vous-même. Est-ce que vous faites tout pour que Dieu soit à l'aise parmi nous? Alors, vous êtes de ceux qui empêchent Dieu d'agir. C'est facile de voir la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre et de ne pas voir la poutre que vous avez dans votre propre œil. Voyez-vous? Que chacun regarde d'abord à soi-même avant de regarder à l'autre. Dieu doit bouger et chacun de nous a la responsabilité de tout faire pour que Dieu bouge au milieu de nous. De tout faire pour que Dieu marche parmi nous. Alléluia. Dans ces cas, que faire? Comment créer un climat, une atmosphère qui lui permette de marcher avec nous? Car comme je viens de le souligner, quand il marche avec nous, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand il marche avec nous, eh bien, nous n'avons plus peur de qui que ce soit. Quand il marche avec nous, peu importe ce qu'il y a devant nous, nous savons qu'avec lui, eh bien, nous irons de victoire en victoire. Lorsqu'il est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Quant à nos lendemains, mes amis, Dieu tient le monde entier dans sa main. Il n'y a rien qui puisse échapper à son contrôle. Pour Dieu, tout est possible. Alléluia. Quand il est avec nous, eh bien, tout devient possible. Que faire alors pour que ce Dieu-là marche parmi nous? Que faire pour que ce Dieu-là agisse en toute liberté? Que faire pour amener Dieu à bouger, à se lever de son trône et à venir nous secouer? Que faire pour que Dieu, en cet instant, et à chaque fois que nous nous rassemblerons, puisse passer dans le rang, passer parmi nous pour poser sa main sur tous ceux qui sont malades, poser sa main sur ceux qui ont tel ou tel autre besoin? Eh bien, nous l'avons lu, mes amis. Il n'y a pas de recette miracle. Pas du tout. Il y a simplement des constantes de la parole de Dieu qui reviennent chaque fois. La Bible nous dit ceci pour que nous créions ces conditions qui permettent à Dieu de nous accueillir. Et lorsque Dieu nous accueille, croyez-moi, nous avons tout. Lorsque quelqu'un a faim et qu'un homme qui a de moyens le recueille, ça veut dire sa faim, il peut trouver à manger, non? Lorsque vous êtes malade et qu'un médecin vous prend, vous recueille ou vous accueille à l'hôpital, c'est pour vous donner le médicament qui vous permettra d'expérimenter la guérison, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque Dieu nous accueille, tout devient possible. Alors nous devrions tout faire pour qu'à chaque fois que nous venons dans ces lieux, que Dieu puisse nous accueillir. Il le dit, et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Il nous accueille au terme d'une certaine démarche. Avant ça, il nous dit, et c'est ce que nous devrions faire, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez, séparez-vous. Nous l'avons lu. Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre Bélial, Satan et le Seigneur? Quel accord entre ce qui est de Dieu et ce qui est du monde? Nous devons sortir. Le Seigneur a dit, nous sommes dans le monde, mais nous sommes appelés à ne pas être du monde. Tant que nous n'aurons pas compris cette parole, il nous sera difficile, mes amis, de voir Dieu bouger parmi nous et en nous. Nous séparer du monde, en nous purifiant de toute souillure, aussi bien de la chair que de l'esprit. Mes amis, nous avons été rachetés à un grand prix par la mort du Seigneur, afin d'être rendus purs devant Dieu et pouvoir jouir d'une communion, d'une relation toute particulière avec lui. Nous devons donc ôter toute souillure, enlever toute impureté, aussi bien de l'esprit que de la chair. C'est de cette manière que nous commencerons, mes amis, à créer des conditions qui permettront à Dieu de pouvoir marcher avec nous, de pouvoir marcher au milieu de nous et parmi nous. Alléluia. L'impureté, la souillure morale ou spirituelle, mes amis, le péché en général, voilà ce que nous devrions enlever du milieu de nous. C'est délivrer le péché qui va empêcher le blé de pouvoir croître et porter du fruit. Tant qu'il y a l'impureté, tant qu'il y a la souillure, tant qu'il y a le péché en nous et parmi nous, il nous sera difficile, mes amis, de voir Dieu marcher avec nous, de voir Dieu agir parmi nous. Donc, notre responsabilité, c'est de tout faire pour enlever la souillure, pour enlever l'impureté. Vous savez que dans l'Ancien Testament, certains animaux étaient considérés comme étant impurs. C'était le cas, par exemple, du gecko, de la salamandre, du lézard vert et de tant d'autres animaux, et notamment le caméléon. Certes, il nous est dit que, concernant toutes ces choses, que toutes ces choses étaient l'ombre de choses à venir. Et la réalité est en Christ. Donc ça veut dire que toutes ces impuretés de ces animaux n'étaient que l'ombre. Voyez-vous, Dieu montrait par là, il voulait inculquer à son peuple qu'il y a des choses qu'il faut faire, mais il y a aussi des choses qu'il ne faut pas. Et pour leur montrer qu'il fallait qu'ils restent purs, qu'ils restent saints, il leur a donné toutes sortes de commandements, toutes sortes de prescriptions, même alimentaires. Voyez-vous, mais plus tard le Seigneur dira, Et c'est le Nouveau Testament qui le déclare, que toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Quand Christ est venu, il a tout accompli. Donc ça veut dire que l'impureté de tous ces animaux n'était que l'ombre. La réalité étant en Christ. Mais cependant, même si c'était l'ombre, je voudrais que nous puissions nous attarder un tout petit peu sur le caméléon, que nous puissions voir à partir de ses particularités quelles sont ses impuretés et essayer de transposer ces impuretés, entre guillemets, du caméléon sur un plan humain et tirer des leçons pour chacun de nous, pour que chacun de nous comprenne l'attitude qu'il faudra se débarrasser absolument, mais aussi une conduite qu'il faudra avoir absolument pour qu'enfin Dieu se sente à l'aise. Le caméléon, nous en avons dans notre pays, est un animal, une petite bête, qui a donc plusieurs particularités. Quelles sont ces particularités? Je vais juste en épingler trois. La première particularité du caméléon, vous le savez, c'est sa capacité à se fondre au milieu en changeant de couleur. Dans un milieu, il finit toujours par prendre la couleur du milieu, oui ou non? C'est une faculté terrible de changer de couleur quand on est quelque part. Et lorsque nous transposons cette particularité du caméléon sur un plan humain, eh bien changer de comportement suivant l'endroit où l'on se trouve, c'est l'expression même d'une vie double. Oui ou non? C'est l'expression même, mes amis, un signe d'hypocrisie et de duplicité. Un pied dedans, un pied. Eh bien, de telles attitudes ne contribuent pas à créer un climat qui permette au Seigneur d'agir parmi nous, de marcher avec nous. L'hypocrisie. La duplicité. Cette attitude que certains ont d'être, d'agir à l'église comme un chrétien, entre guillemets, et lorsqu'on se retrouve avec les collègues du travail, oh, c'est différent. On parle comme eux, c'est des grossièretés, c'est des choses impures, voyez-vous, c'est... Bref, il n'y a pas de différence. Mais quand on vient à l'église, on essaye de prendre la couleur de l'église. On change sa manière de marcher, sa manière de parler. Voyez-vous, on donne l'impression d'être l'homme ou la femme le plus tendre. Ah bonjour frère. Alors qu'au travail, oh là là, on est plus qu'une pie. On parle tout le temps. Bah, 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 bah. Ça jacasse. Ouais. Ça ne s'arrête pas. Ouais. Au travail, on veut être comme les gens du monde. Voyez. Quand elles parlent ou les collègues parlent de leur mésaventure de la semaine ou du week-end, on est là, ah bon? Ah, c'est où c'est? À Calamo. Ah, il y a une boîte de nuit à Calamo. Ah là là. Ah, vous avez dansé comment? Caméléon. Nous devons arrêter avec cette attitude camélonesque de vouloir être comme un chrétien à l'église et quand on est dans le monde, on est comme les gens du monde. Voyez-vous, c'est une impureté dont nous devons nous débarrasser absolument. Dieu voudrait que nous lui appartenions en tout. Il veut que nous soyons tout entiers à lui. Nous devons bannir l'hypocrisie. Voyez-vous? Et l'hypocrisie tue l'œuvre de Dieu au milieu de nous. L'hypocrisie, la duplicité empêchent, mes amis, Dieu d'agir pleinement parmi nous. Vous voyez quelqu'un qui vient, qui vous sourit, alors que dans son cœur, il ne vous porte pas. Quelqu'un qui vient, qui vous fait même des bises, autant ne pas faire des bises. Car là, vous agissez comme si vous lui tendiez un couteau, alors que dans votre cœur, vous ne le portiez pas. Vous donnez une apparence qui est fausse. L'hypocrisie, nous devons la combattre absolument au milieu de nous. C'est une impureté. C'est facile de voir l'adultère. C'est facile de voir toutes ces escapades sexuelles ou autres. Ces vices contre nature, c'est vrai. Mais vous savez, avec le péché, il n'y a pas de petit ni de grand péché. Il n'y a pas de péché qui serait véniel, d'autres qui seraient graves. d'autres encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus graves, etc. Le péché est péché et reste une offense à notre Créateur. Donc, l'hypocrisie, la duplicité, l'apparence double. Il y a des gens qui ont cet art terrible. Quand ils sont avec vous, ils vous donnent l'impression d'être l'homme le plus saint. Vous pourriez même, il y a une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, vous pourriez leur donner le bon Dieu sans confession. Aucun soupçon. Ils sont là, ils vous regardent avec des yeux de sainteté. Oui. Une certaine posture, dite d'enfant de Dieu. Mais allez le voir juste à l'arrêt. Vous allez voir tout de suite. Comme quelqu'un l'a dit en juste titre, pour voir un véritable chrétien, n'allez pas le voir seulement dans ses actions, mais aussi dans ses réactions. C'est beaucoup plus facile de poser des actions nobles, de s'intéresser aux pauvres, voyez-vous, de tout faire. Quand les gens sont en conflit, vous venez vous présenter comme étant l'homme le plus conciliateur. Vous savez, venez, ce n'est pas bon les disputes. C'est pas bon, etc. Voyez. Pour avancer plus vite, la deuxième caractéristique, ou la deuxième particularité du caméléon. Eh bien, c'est que le caméléon, dans cette deuxième particularité, ses globes oculaires, mes amis, ont la faculté de se mouvoir indépendamment l'un de l'autre. Vous avez déjà vu ça? Jusqu'à regarder à 180 degrés. C'est-à-dire le caméléon a cette capacité, cette faculté de regarder aussi bien en avant et en même temps en arrière. Vous avez déjà vu ça, hein? Voyez? Il regarde en avant et en même temps en arrière. Voyez? Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Écoutez, dans Luc 9, 62, il dit ceci, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. » Comment voulez-vous que nous vivions le royaume, le règne de Dieu, la manifestation de sa puissance, si nous avons des yeux comme les globes oculaires du caméléon? On regarde en avant, on voit toutes ces choses, mais en même temps, on a toujours un regard en arrière. Vous savez, il y a des gens qui regrettent souvent d'avoir quitté le monde. C'est terrible, hein? Quand il regarde les autres, il passe là où. C'est comme cette histoire d'un homme. Un jour, il va devant un bar. Il avait un mètre ruban. Il y a des gens qui buvaient à l'intérieur. Il arrive, il commence à mesurer. Il mesure la largeur de la porte. Il dit, ah, c'est même pas 2 mètres. Et puis là, ça fait oh, à peu près 2 mètres. Il s'est dit, mais c'est une petite porte. Mais par cette porte, ma maison est passée. Par cette porte, mon épouse est partie. Par cette porte, eh bien, j'ai perdu tout. Évidemment, parce qu'il passait plus de temps dans ce café, dans ce bar. Vous voyez? Donc, il allait boire. Ouais. Alors, il y a des gens, ils passent là où ils allaient. Le Seigneur les a délivrés. Quand ils repassent par là, ils s'arrêtent un peu. Il y a comme une petite nostalgie. Ça, c'était le Congo Bar. Hein? Ah, je me souviens. Ça, c'était, okay, comment, 1, 2, 3. Ceux qui ont mon âge peuvent se souvenir. Voilà. Ah, 1, 2, 3, là, 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 1, 2, 3. Je me souviens, Maya. Et quand ils se souviennent avec beaucoup de regrets. Enfin, on est passé par là, on n'est pas né des anges, hein? On n'est pas sorti des entrailles du ciel, donc on est né d'une femme, on est passé par ce chemin. Heureusement que le Seigneur nous a récupérés à temps. Oui. On regrette. Oui. On veut, on regarde vers l'avant et en même temps on regarde. Et lorsque on est dans une posture pareille, on n'avance pas. Car Dieu voudrait que nous soyons tout entiers à lui et que nos regards ne soient fixés que sur. Combien d'entre nous? Essayez de regarder encore en arrière. Combien d'entre nous par convoitise? Voyez-vous? Combien de femmes regrettent Alors que le Seigneur les a délivrées autrefois, elles étaient des maîtresses. Il y a quelque temps d'ici, on parlait de bureaux, ou je ne sais pas, des tiroirs. Premier bureau, deuxième, etc. Il y en a qui en collectaient, c'est incroyable. Qui avaient tout un harem. Eh bien, le Seigneur les délivre. Et puis plus tard, passant par des moments difficiles, il y en a qui commencent à regretter, oh là là, mon ambassadeur là, malgré tout, m'aidait. Mon ministre là, il était toujours là. Bon, la prière, qu'est-ce que vous voulez? Vous commencez à regretter. Alors que vous étiez dans un trou à rats, l'ennemi était en train de vous détruire. Au lieu de regretter, continuez à regarder à Jésus. Tôt ou tard, il viendra à votre secours. Ne courez pas le risque de retourner à ce que vous avez vomi. Ça serait beaucoup plus terrible qu'avant. Oui. On regrette des choses qu'on a laissées. Oui. On avait volé des histoires, et puis quand on se tourne vers le Seigneur vous convainc, vous allez tout remettre. La voiture que vous aviez volée et escroquée aux gens, vous allez leur demander pardon, vous leur restituez tout cela, et puis un jour vous commencez à regretter, oh là là, quelle mouche m'a piqué. Oui. Voilà. On regarde en avant et en même temps, et avec une telle posture, vous n'avancerez jamais. Et puisque vous n'avancez pas, croyez-moi, Dieu non plus n'avancera pas avec vous. Il faut que vos yeux soient tournés toujours vers l'avant. Alléluia. Regardez vers l'avant et donc envisagez par le Seigneur comme la seule attitude à avoir. Quels que soient les problèmes, ne regardez jamais en arrière. Caméléon. Combien de fois nous avons agi en caméléon? Mais Dieu est là ce matin pour nous pardonner, pour nous aider, voyez-vous, à ne plus avoir ces globes oculaires qui regardent l'un en avant, l'autre en arrière, mais que nous ayons des yeux, alléluia, des yeux qui soient fixés sur le Seigneur, alléluia. Peu importe mon contexte présent, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, alléluia. S'il permet que je passe par cette épreuve, il sait pourquoi. Mais une chose est sûre, cette épreuve ne durera pas éternellement. Un jour, il s'élèvera de son trône. Un jour, il viendra à mon secours. Un jour, il m'étendra son bras puissant. Un jour, il me fera sortir de ce trou-là. Un jour, il agira. La troisième faculté, une impureté camélonesque à ne pas avoir, c'est que non seulement le caméléon a cette faculté de s'adapter à l'environnement en changeant de couleur. Non seulement ses globes oculaires peuvent se mouvoir indépendamment l'un de l'autre, jusqu'à faire un angle de 180 degrés. Le caméléon a une langue particulière. Sa langue est capable de se déployer, mes amis, avec une énergie foudroyante pour avaler les insectes. Vous avez déjà vu ce documentaire où on montre au ralenti, la langue du caméléon qui sort. C'est incroyable. C'est une langue assez longue. Hein? Voyez, non seulement elle se déploie avec une énergie extraordinaire, mais elle possède comme un marteau à son extrémité pour assommer sa proie pour mieux l'avaler. La langue. Oh, la Bible a beaucoup à nous dire à propos de la langue. La parole de Dieu déclare que la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est pleine de venin mortel. Combien de foyers brisés à cause de la langue, à cause des rumeurs, à cause de la calomnie, de la médisance, même dans l'église. Il y a des choses que j'entends même par rapport à moi. Je me dis, comment est-ce possible que des gens qui se réclament appartenir à Jésus, assumer une quelconque responsabilité, puisse faire sortir des énormités, des mensonges pareils. La langue. Si nous avons des langues de caméléon, croyez-moi mes amis, il sera difficile de voir Dieu agir au milieu de nous. Si dans nos familles, nous avons ce genre de langue, eh bien nous ne ferons que des dégâts autour de nous. Voyez-vous, nous devons faire attention. Combien de blessures dans les cœurs Combien de détresses sont occasionnées par la calomnie? La calomnie, la médisance, les rumeurs. Comme à l'époque, M. Sacombe, il avait dit dans un de ses livres que la radio-trottoir émettait plus puissamment ici, au Congo, à l'époque Zaïre, plus puissamment que la station nationale. Oui. Toutes ces rumeurs, vous avez entendu? Ah, mais il a acheté cette maison. Et l'argent, il l'a trouvé où? Mais il l'a volé. Alors que la personne loue. Mes amis, vous êtes des chrétiens. Vous ne devriez pas prendre pour l'argent comptant tout ce qu'on vous apprend. Ouais. Il y en a qui ont cet art terrible de noircir les autres. Ouais. Dès qu'on voit quelqu'un... Ah. Mais où est-ce qu'il a eu l'argent pour acheter cette voiture? Mais vous ne savez pas, et si on lui a prêté? Ne prenez pas pour argent comptant, pour parole d'évangile, tout ce que vous entendez. Et ce qui est terrible, c'est là que nous devrions peut-être introduire dans le corpus de matière enseignée à nos enfants, la capacité à savoir exercer son discernement, la capacité de critiquer ce que nous lisons dans les médias. Les médias ne sont pas la Bible. Ce n'est pas parce que vous avez un grand titre, scandale, dans tel... Allez, au département transport. Scandale. J'ai appris en venant par certains de mes collaborateurs qu'il y a quelqu'un qui voulait faire un article pour noircir la borne. Alors il est passé, il a commencé à utiliser le chantage. Ce n'est pas la première fois, il y en a qui sont déjà venus. Hein. Je leur ai dit, mais allez, écrivez tout ce que vous voulez. Qu'on leur donne l'argent, mes amis, vous qui faites le journalisme, c'est un métier noble. Ouais. Ne devenez pas des petits escrocs qui va faire chanter les gens. Ouais. Écoutez, si vous ne dites pas ça, moi je vais dire que vous êtes sorti avec votre secrétaire. Enfin, c'est quoi ça, ces histoires? Et vous trouvez des chrétiens qui trouvent normal, dès qu'on apprend quelque chose. Vous avez lu dans le journal, quoi? Oh! Ah oui, mais ce pasteur-là, il a pris toute la caisse, il est parti. Oh, mais cet homme-là, mais il va fuir. Il a fui. Il est où? Il est en Angola. Ah bon? Oh, mais vous ne savez pas? On n'a même pas payé les gens. Et tout de suite, on a dit, oh Seigneur, ça c'est un vol. Vous commencez tout de suite à noircir la personne. Et puis après, une semaine après, vous le voyez. On dit, oh, vous étiez en Angola. Il dit, non, mais j'étais à Kasangoul. Vous voyez, c'est ça, mes amis. Ayez un esprit critique. Ce n'est pas parce qu'on vous le dit que cela est la vérité. On m'a appris à douter de tout, sauf de Dieu. Oui, oui. Ouais. La personne qui te parle là, est-elle objective dans ce qu'elle te dit? Ou cherchait-elle simplement à voir un certain, une petite grâce? Alors pour l'en voir, elle va noircir l'autre. Enfin bref, les fausses rumeurs, voyez-vous, qu'on véhicule. Tout cela indispose Dieu et ne contribue pas à créer un climat qui lui permette d'agir. Mes amis, nous devons faire attention à toutes ces impuretés du caméléon, à cette vie, comme je le disais, passez-moi l'expression, caméléonesque, une vie d'hypocrisie, de duplicité, de médisance, de calomnie. Non seulement ça, mais il y a également des péchés abominables, comme l'impudicité, l'immoralité, bref, le péché sous toutes ses formes. Et ce qui est terrible avec le péché, c'est qu'il ne suffit pas, d'en commettre beaucoup pour pouvoir enfin récolter les conséquences négatives. La Bible nous dit un peu de levain. Fait lever toute, un peu de levain. Voyez-vous, fait lever toute la pâte. Une petite attitude mauvaise. Ah ben c'est rien. Une petite calomnie. Oh ben bon, c'est juste un petit rien pour rigoler. Une petite désobéissance par-ci. Une petite transgression par là, et c'est toute la vie qui fermente. Il y a beaucoup de vies en fermentation. Les mamans qui font les beignets savent. Hein. Quand vous avez la pâte, vous mettez simplement un peu de levure. Hein. Qu'est-ce qui arrive? Vous voyez la pâte qui commence à s'agiter. Tout est en agitation, en effervescence. Vous voyez? Et il y a, mes amis, des vies comme ça. Des petites choses. Et votre vie se retrouve en train de fermenter. Pour l'Église, c'est la même chose. Un petit enseignement, bon, ce n'est pas grave. Une fausseté, quelques faux prophètes, quelques fausses prophéties, ce n'est pas grave. Mais finalement, c'est toute l'Église en fermentation. Un peu de levain suffit pour amener une Église en fermentation. Et le drame aujourd'hui, c'est ça. On enseigne des petits mensonges, oui, mais ce n'est pas grave. Vous voyez? Oui, ce n'est pas grave. Mais ce sont ces petits bouts de levure qui tombent dans la pâte, qui va finir par l'aigrir, par lever la pâte. Nous devons au contraire nous sanctifier. C'est ce que la Bible nous dit, et je terminerai par là. Lorsque l'apôtre dit, puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. C'est en nous purifiant de toute souillure, en développant dans la crainte de Dieu la sainteté, que nous allons créer des conditions, que nous allons créer une atmosphère qui permettra à Dieu d'agir, mes amis. Et lorsque Dieu bouge au milieu de nous, croyez-moi, tout autour de nous va bouger. Alléluia. S'il se met à bouger ici, croyez-moi, l'onde de choc se fera retentir dans toute la ville et même au-delà. Alors, créons des conditions en nous, mais aussi au milieu de nous, pour permettre à Dieu de marcher avec nous, de marcher au milieu de nous. Car lorsque lui marche, alors tout devient possible. Lorsque lui marche, toutes nos situations, nos détresses disparaissent et nos problèmes trouvent des solutions. Lorsque lui marche, eh bien, ce qui était impossible, tout d'un coup, devient possible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et je voudrais que chacun de nous s'examine à la lumière de cette parole. Nous avons le devoir de créer des conditions dans notre assemblée, le devoir de créer des conditions en nous qui permettent à Dieu non seulement d'habiter en nous, mais aussi de marcher avec nous, de marcher au milieu de nous, de marcher parmi nous. Alors il y a des attitudes à ne pas avoir, des impuretés que nous devons absolument jeter loin de nous, comme l'hypocrisie, comme la duplicité, comme la médisance, comme la calomnie, mes amis, comme cette vie double. Et en même temps, nous avons le devoir de nous purifier de toute souillure. Seigneur, tu ne parles jamais en vain. Tu aimerais bouger parmi nous. Tu aimerais, Seigneur, marcher avec nous. Tu aimerais agir davantage au milieu de nous. Et pour cela, Seigneur, nous avons le devoir, la responsabilité de créer des conditions qui te permettent d'agir, qui te permettent de marcher avec nous, Seigneur, car c'est lorsque tu bouges parmi nous qu'alors des miracles deviennent possibles. C'est lorsque tu bouges, lorsque tu passes dans le rang et que tu poses ta main sur chacun de nous en marchant au milieu de nous qu'alors nous pouvons expérimenter toutes les richesses du ciel. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous te louons. Père, nous te demandons de nous aider à nous débarrasser de telle ou telle autre attitude, caméléonesque, et à être tout entier à toi. Seigneur, à continuer notre marche dans la sanctification, dans la purification, Seigneur, en nous maintenant dans la crainte de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. En même temps, nous te prions, oh Dieu, de poser ta main sur ce service des offrandes. Oh, de bénir tous ces bien-aimés qui, par leur générosité envers toi, qui, par amour pour toi, Seigneur, contribuent, oh Dieu, à ce que ton œuvre puisse aller de l'avant. Puisses-tu les bénir? Mais je te prie également de bénir ceux qui auraient aimé donner, mais qui ne le peuvent pas, parce que n'ayant pas de travail, parce que n'ayant pas suffisamment de moyens, s'il te plaît, visite-les, afin qu'eux aussi découvrent la joie qu'il y a à donner plus qu'à recevoir. Merci Jésus. Sois loué, sois béni. Amen.